Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment un plaisir d'avoir une salle aussi bien remplie. Écoutez, je vais faire rapide. Je suis la commissaire de l'exposition qui a lieu dans le hall de la Maison populaire qui s'appelle Entre nous, qui est le troisième volet du cycle d'exposition sur le thème L'autre de l'image à la réalité. J'espère que vous aurez l'occasion de voir un petit peu l'exposition, sinon à la fin de la conférence sur les dispositions pour discuter des autres qui sont présentées. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir Alain Damasio, auteur de science-fiction, Bertrand Delay, alias Pep Deum, donc auteur des œuvres de l'exposition, ainsi que Marc Attala, directeur du musée d'ailleurs en Suisse. Cette rencontre a lieu à l'occasion d'une triple actualité. D'abord, l'exposition, bien sûr, de la Maison populaire, mais aussi l'exposition Corps Concept de Marc Attala, qui est encore visible pendant un mois, et également la parution d'un livre que Alain tient dans ses mains, que je vous conseille d'aller feuilleter, qui est aussi disponible à la vente après la conférence. Je pourrais vous adresser à Pep Deum, qui sera un plaisir de vous dédicacer l'ouvrage. Voilà, je fais bref et simple, et je donne tout de suite la parole à nos invités.
Lorsque j'ai reçu sur mon cloud les premières photos de clones, datées de 2048, j'ai cru à une blague, tout simplement, un hoax, un de plus. Un hoax étrangement soigné, avec des messages très crédibles, foutrement troublants même, mais un hoax. Puis d'autres images sont tombées, avec d'autres textes, des alertes glaçantes, des SOS. Suivi d'un buzz croissant et étayé de hackers militants, d'experts des réseaux et de scientifiques indépendants. Et puis, Pep Deum m'a contacté. Et là, devant ces documents crus, j'ai fini par accepter la réalité. La réalité inconcevable. Un réseau temporel a été ouvert sur le Darknet, l'Intertime. Un réseau qui utilise des TOCA, trains d'ondes quantiques, pour transmettre de l'information venue du futur. Je ne vais pas refaire ici l'historique des controverses scientifiques qui mettent encore en question sa véracité. À mes yeux, la précision hallucinante des photos transmises qui s'affichent en une taille inatteignable avec nos optiques actuelles, on parle ici de photos à trilliards de pixels, suffit à mettre fin au débat. Le grain des peaux est visible jusqu'aux pores dans leurs photos les plus banales. Si j'ai accepté de faire ce livre avec Pep Deum, ça a été pour l'aider à ordonnancer et à orpailler les textes les plus poignants du corpus reçu, sans rien y ajouter que cette préface. La littérature clone, qui va émerger vers 2048, est en soi bouleversante. Rien ne sert d'y adjoindre glose ou contexte. Vous le comprendrez aisément, l'Intertime n'est pas seulement un choc technologique qui ébranle jusqu'au fondement de ce qu'on croyait possible. Il est, par le contenu qu'il permet de révéler, un séisme social et moral pour nous, citoyen et humain de 2017. Il est désormais acquis que l'envoi de ces contenus vers le passé est une tentative de lanceur d'alerte du futur pour accélérer notre prise de conscience des dangers de l'hypercapitalisme et des biotech. C'est en tout cas un don et un défi fait à notre éthique, un don précieux qu'il faut recevoir à sa juste terreur. Les documents reçus, aussi parcellaires et endommagés soient-ils, nous donne en effet un accès vertigineux à l'évolution de l'espèce humaine sur les 30 prochaines années. Un phénomène majeur va y survenir, la fabrique et la commercialisation de corps de culture, de corps humains vivants, intelligents et sensibles, généralement désignés autour de la figure attractive du métis. Aux alentours de 2040, la mise en culture de ces corps génériques dans des piscines neuronales, leur éducation accélérée puis leur mise sur le marché, paraît avoir ressuscité une nouvelle ère de l'esclavage. Acheter un clone, en faire sa chose, les soumettre, voire les abuser sexuellement, dans le cadre d'un trafic génégrier, tout ce qu'il y a de plus officiel et légal, c'est ce que le futur nous promet. L'espoir, si on s'en tient aux documents envoyés par les hackers temporels, qui sont la plupart africains ou indiens, est qu'une forme de résistance semble s'être progressivement mise en place. Non seulement certains corps, comme les appellent leurs fabricants, parviennent à fuguer de leur famille d'accueil, mais ils se sont parfois regroupés en forêt ou dans des zones clandestines pour revendiquer leur singularité et produire à leur tour leur propre culture. Car si nous avons récupéré beaucoup d'images de corps marchandises vendues sur catalogue, nous avons aussi, comme vous le constaterez, des autoportraits saisissants de Korff, et même des satires et des parodies féroces de ce capitalisme de la chair qui nous attend et qu'ils combattent déjà par une contre-propagande habile.
Voilà, alors après Alain Davasio, c'est assez compliqué de prendre la parole. Lui, c'est l'artiste et moi, je fais figure d'intello. Puisque la raison pour laquelle j'ai été invité, c'est de pouvoir vous parler d'une exposition qui, d'une certaine manière, est du même ordre, en tout cas touche à peu près les mêmes sujets que celle qui est présentée là à la Maison Populaire. C'est une exposition dans un musée suisse qui s'appelle La Maison d'ailleurs, dans une toute petite ville de 30 000 habitants, mais qui a, et c'est étonnant, la propriété d'être le seul musée dédié à la science-fiction en Europe. Et on m'a proposé de vous parler un peu de cette exposition. Je vais essayer de le faire, et je vais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Alain Damasio, puisque le texte qui vous a lu, qui est donc la préface de l'ouvrage monographique des œuvres de Bep de Hoom, c'est l'origine... pour moi, de cette exposition qui s'appelle Korff Concept, qui est une origine qui remonte à quoi, 3 ans à peu près, où j'étais venu à la Halle Saint-Pierre à Paris et j'avais vu quelques portraits qui avaient été faits par Bep de Hoom, mais je l'ai assez rapidement contacté pour savoir si on pouvait imaginer une exposition qu'à l'époque je pensais être dédiée aux manipulations physiques ou corporelles. Je trouvais intéressant ces corps, pour ceux qui n'ont pas vu l'ouvrage, je vous incite évidemment à aller le voir, autant pour le texte que pour les images. Ces corps qui sont mutilés, hybridés, avec passablement d'éléments technologiques ou autres. Et puis, 3 ans après, le 21 mai de cette année, on a ouvert l'exposition Korff Concept. Et puis j'avais envie de vous présenter un petit peu cette exposition, enfin c'est accessoirement pour ça qu'on m'a invité. Et peut-être aussi de profiter de la présence d'Alain pour parler un peu de la science-fiction. En tout cas, d'essayer d'avoir une manière un peu spécifique de la voir. Vous savez que la science-fiction est une littérature ou une esthétique un peu particulière hein, qui a autant enchanté passablement de monde que aussi été repoussée par encore plus de monde. L'avantage de diriger un musée, c'est qu'on a accès à un patrimoine assez conséquent. Le patrimoine de la Maison d'ailleurs, c'est environ 130 000 objets. Tous dédiés à la science-fiction ou aux sociétés alternatives, ce qu'on appelle les utopies. Et Korff Concept, ça s'articule autour de ça. C'était de réfléchir à la question du corps, et en particulier à la question du corps telle qu'elle est entendue aujourd'hui de plus en plus par ce mouvement bizarre qu'on appelle le transhumanisme. J'y reviendrai tout à l'heure. Korff Concept, c'était donc une sorte de matrice permettant de réfléchir différemment au transhumanisme, et même si Bertrand n'a pas produit sa série pour parler du transhumanisme, les échanges qu'on a pu avoir ensemble ont permis de pouvoir créer un dialogue qui, à mon avis, était intéressant. Je vous sors quelques petites images que je trouve sympathiques parce que vieillotte. Ici, cette idée d'ailleurs, justement, de la science-fiction qui m'intéressait et qui est au centre de cette exposition, c'est l'idée de l'artifice. Vous avez entendu dans le texte qui a été lu par Alain tout à l'heure, passablement de mots qu'on connaît, mais aussi passablement de mots, de nouvelles manières de dire des choses qu'on ne connaît pas, mais qui nous sont étrangement familières. La science-fiction, depuis le début du XXe siècle, là, vous avez ce qu'on appelle un pulp magazine, qui sont ces magazines populaires américains des années 20, met en scène quelque chose qui est nouveau, des sortes d'artifices. Ici, une manière d'écouter les patients avec une technologie complexe. C'est aussi pour cette raison qu'on a tendance à penser que la science-fiction parle du futur. Tout comme le texte d'Alain, nous donne l'impression qu'il nous parle du futur, puisqu'il se passe en 2048. Mais ceux qui connaissent un peu la science-fiction peuvent se demander s'il y a une corrélation particulière entre la date de 2048 et le roman de 1984, par exemple. C'était un peu l'idée de base que j'avais au départ, c'était de pouvoir réfléchir à la chose suivante. Le réel, en fait, le monde dans lequel on vit, convoque passablement de termes qui sont référencés à des réalités empiriques. Je pense aux robots, par exemple. ou au cyborg, à la chimère, au cyberespace, etc. Tous ces termes nous paraissent très tangibles. On voit tout à fait à quoi ressemble un robot. Et je pense qu'en Suisse, enfin en France, c'est la même chose qu'en Suisse. Il n'y a pas une semaine sans qu'un journal ne nous annonce que bientôt les robots domineront l'être humain et que bientôt nous ne serons plus que des sortes de petites choses qui servent à rien dans un monde de machines. Et il nous restera peut-être les joies du cyberespace pour pouvoir vivre des aventures épiques comme dans les jeux vidéo. Ce qui est étonnant, c'est que ces scénarios qui apparaissent dans les magazines ou dans les journaux, voire à la télévision, c'est à peu de choses près les mêmes que ceux qui apparaissent dans la science-fiction. Autrement dit, dans la science-fiction, vous avez aussi des robots, vous avez aussi des cyborgs, vous avez aussi des chimères, du cyberespace, etc. Sauf qu'évidemment, quand on lit un roman ou quand on voit un film de fiction, il est assez complexe d'imaginer, identifier le robot d'un roman avec le robot de la réalité. Don Quichotte avait fait ça, hein, il avait identifié ce qu'il lisait dans ses romans avec ce qu'il voyait dans le monde réel, ça l'a rendu fou. Madame Bovary aussi a identifié les histoires d'amour qu'elle disait dans ses romans avec les histoires d'amour qu'elle espérait vivre, elle s'est suicidée. L'idée n'est pas forcément très bonne, c'est que vous commencez à penser que les robots de la science-fiction sont les robots de demain, faites attention à la folie qui vous guette. Et c'est pour ça que ce soir, et l'exposition Core Concept, c'était ça aussi, c'était de pouvoir travailler sur un concept de base que tout le monde connaît, qui s'appelle la métaphore, mais qu'on a tendance trop souvent à réduire à une sorte d'image du poète. Vous savez, quand j'avais 18 ans, il y a quelques années, et qu'on écrivait des lettres d'amour avec l'espoir éventuel de pouvoir avoir une réponse, on mettait des métaphores en se disant que c'était joli et que ça pouvait émouvoir l'autre. C'est évidemment la fonction la plus classique de la métaphore, celle qui est la plus réduite, mais en fait, une autre manière de parler de la métaphore qui a été évoquée dans les années 70, je vais faire chaque fois l'effort de transformer les dates, dans les années 70 par un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur, c'était de dire la chose suivante, comment vous faites pour décrire l'expérience amoureuse ? Comment on fait pour décrire l'expérience amoureuse ? Alors vous aviez des images comme ça. Ricoeur nous dit, en fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à décrire. Alors on crée des images. Et ces images, on les appelle les métaphores. On peut très bien dire que l'expérience amoureuse, c'est des phéromones. Il y a quelques années, je crois que c'était aux années 2000 à peu près, on nous disait que l'expérience amoureuse, c'était peut-être lié à la sécrétion d'une hormone bizarre, enfin d'un truc bizarre qu'on appelait les phéromones. Comment on ne sait pas ce que c'est les phéromones, on a cru ce qu'on nous a dit. Et c'était très pratique, les phéromones, parce que vous pouviez aller vers une fille ou vers un garçon en disant « J'aimerais beaucoup m'accoupler avec toi, et c'est pas de ma faute, c'est mes phéromones. » Et donc, c'était la disparition du râteau. Mais ça n'a pas marché. Parce que c'est pas une image très intéressante. Alors, pour Ricoeur, il y a des manières dont l'esprit humain fonctionne qui sont d'inventer des métaphores, des images. L'image de l'expérience amoureuse la plus connue, c'est la flamme, qui a été inventée par Ronsard. La flamme amoureuse est très pratique, personne n'a jamais été réellement brûlé, en tout cas pas à cause de ça. Par contre, tout le monde a déjà fait cette expérience assez particulière d'être brûlé par la flamme de l'amour qui peut nous consumer tout en nous fascinant, puisque quand on est face à un feu, c'est à la fois attractif et répulsif. Alors cette image est pratique parce que Ricoeur dit « la métaphore sert à décrire le réel ». Et d'autre part, elle permet des fois de redécrire le réel. Et quand on a des nouvelles métaphores qui apparaissent, alors on peut décrire autrement le réel. C'est ce qu'il appelle la métaphore vive. Il dit, voilà, les talents des artistes, comme Alain Damasio, c'est d'être capable de créer des nouvelles images, ou des images qui permettent de décrire autrement le réel. Et c'est comme ça qu'on va aujourd'hui regarder la science-fiction comme une littérature ou une esthétique qui est capable de créer une image. Est-ce que vous savez, par exemple, quelle est l'image, la métaphore la plus forte qui a été créée par la science-fiction, en tout cas celle qu'on connaît le plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Je ne sais pas si vous êtes tous des méga amateurs de science-fiction. Bon, la plus connue, c'est celle du robot. Vous savez que le terme robot provient du slovaque. Le travailleur, ce qu'on pourrait traduire, parce que c'est le travail forcé, on pourrait traduire ça par le prolétaire. Et en fait, il apparaît dans une pièce de 1920 qui s'appelle RUR. Et ce premier robot de l'histoire de l'humanité, en tout cas de la littérature, c'est un être humain, comme vous et moi, donc de chair, à qui on a ôté l'âme. Et en ôtant l'âme du robot, on peut le fonctionnaliser, ça devient une fonction qui construit le monde. Jusqu'au jour où les robots, qui sont pris en pitié par une jeune femme appelée Hélène, reçoivent de la part d'un savant une âme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les robots? Ils se révoltent, ils détruisent l'humanité et ils fondent une nouvelle humanité. Techniquement, on pourrait penser qu'on parle des machines de l'ingénieur, mais les machines de l'ingénieur, elles commencent à la fin des années 40, avec les machina speculatrix, pour ceux qui voient ce que c'est, les tortues de Walter. Et dans les années 20, il n'y a pas ça. Par contre, il y a une grande idéologie qui qui traverse l'Europe, c'est la lutte des classes. Et quand vous avez des gens qui sont fabriqués en industrie, qui n'ont pas d'âme, parce qu'on ne leur demande pas d'avoir d'individualité, et qui prennent conscience, dès qu'on leur ajoute de l'âme, que c'est eux qui détiennent les forces de production, alors ils se révoltent et ils fondent l'État communiste. Hein, c'est une lecture de Marx et du Capital. Autrement dit, les premiers robots de l'humanité sont des métaphores de l'être humain asservi par les capitalistes. Ce n'est pas des machines, ou plutôt c'est l'humain lorsque l'humain est réduit à une machine. C'est un peu comme ça que fonctionne la science-fiction. Et je vais le faire rapidement, parce que bon, moi, comme j'ai la casquette de l'intello, je peux me permettre de mettre des schémas, comme ça. Hein, ce que Alain Damasio ne peut pas faire.
C'est beau, ce que tu...
Mais comme ça, on se met d'accord pour aussi comprendre l'idée d'une expo artistique sur la question du transhumanisme, qui semble être de très loin quelque chose qui a un rapport avec l'artistique. Quand vous lisez les journaux, je n'ai pas voulu parcourir les journaux parisiens du jour, mais je suis presque sûr que j'en aurais trouvé un qui nous parlait, si ce n'est de transhumanisme, du moins de robot ou un truc comme ça. Le monde dans lequel on vit, c'est celui-là. Et on vit dans une réalité qui est la nôtre, qui passe son temps à prédire des choses. Hein, on passe notre temps à prédire des choses. Et en plus, quand c'est des savants qui le prédisent, ça paraît encore plus vrai. Quand vous prédisez quelque chose, souvent on rigole un peu au nez. Mais lorsque c'est des savants qui nous disent, voilà, comme Stephen Hawking dernièrement, voilà de quoi l'avenir sera fait, arrêtez la recherche sur les IA, parce que si vous continuez sur les IA, ça va nous péter la gueule. En gros, c'est ce qu'il a dit. On nous fait une prédiction. Et la science, bizarrement, comme nouvelle religion de notre temps, passe son temps à nous faire des prédictions de ce qui nous attend. Alors après, on va lire des romans. Et on dit, ah tiens, les auteurs de science-fiction, je suis sûr qu'Alain, on l'a déjà posé la question, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi l'avenir sera fait? Bon, moi, je pense qu'un auteur de science-fiction, il devrait dire, demandez aux scientifiques. Parce que vu qu'ils le font déjà, ça va plus vite. Hein, ça évite de rajouter des choses. Mais souvent, on demande aux auteurs de science-fiction qui peignent aussi une réalité du futur, de nous décrire ce futur. Sauf que vous le savez, la fiction est d'abord une image, hein, ou un scénario. Elle n'est pas d'abord une réalité empirique, heureusement d'ailleurs. Autrement dit, l'idée de la métaphore que j'ai évoquée tout à l'heure, et sur laquelle je reviendrai un petit peu après, c'est d'être capable, ou l'imaginaire humain est capable d'inventer des mondes futuristes où les images telles que le robot, le cyborg, etc. sont des métaphores, et si c'est des métaphores, si ce sont des métaphores, c'est qu'elles évoquent d'abord le monde dans lequel on vit. Hein, comme je l'ai dit avant, le robot, c'est une image qui évoque l'ouvrier aliéné par un système capitaliste. Et ce n'est pas d'abord une image qui nous parle du futur. Et c'est un peu ça que je voulais faire avec Core Concept, c'était de réfléchir à la manière dont aujourd'hui, le transhumanisme, cette espèce d'idéologie bizarre qui nous dit de quoi demain sera fait, pouvait être traité ou était traité par les artistes, par les écrivains, comme en fait une image intéressante du présent, ou qui nous disait quelque chose, en fait, de notre humanité. Le paradoxe est assez logique et assez évident. Si vous voulez absolument vous augmenter, vous savez que le transhumanisme est un mouvement qui parle de l'augmentation des capacités humaines, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales. Si je veux absolument m'augmenter tout le temps, qu'est-ce que ça implique de ma perception de moi, en fait? En général, ma perception de moi, c'est plutôt assez négatif, hein. Si je veux changer mon corps, mon esprit ou la chimie de mon cerveau, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas tellement dans ce corps ou dans cette chimie du cerveau. Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré le fait qu'on nous parle d'augmentation ou de post-humain, on passe notre temps finalement à dévaloriser l'humain. Et c'est exactement à ça que s'occupait Core Concept, mais je crois que maintenant Alain va nous dire un petit quelque chose.
En fait, je vais essayer de vous affranchir au lexique de 2040-2050. Parce que ce que l'Intertime nous envoie n'est pas facile à assimiler comme ça, sans filtre. Donc je vais vous expliquer deux, trois termes que vous allez entendre un peu plus tard. Par exemple, le terme de apax, nom masculin, étymologie 1922, du grec apax, chose dite une seule fois. Au niveau génétique, forme biologique dont on ne peut relever qu'un exemplaire, attestation isolée. L'apax est un être humain de souche génétique naturelle, unique et originale, issu d'un père et d'une mère biologiques, eux-mêmes uniques, et en procréé par voie organique. Il se pose bien sûr au clone et au corf. L'apax est donc l'humain normal que nous connaissons en 2017. Le corf, alors là c'est plus compliqué. noms masculins et féminins, de corps, de culture et de morphe, du grec morphé, forme. Être humain cloné à partir d'un apax, généralement disponible en plusieurs centaines d'exemplaires, parfois des milliers, et bénéficiant d'un patrimoine génétique sain, nettoyé des tares et des maladies potentielles. Les corphes sont également issus de phylums doux, dénués d'agressivité ou d'anxiété. Le corps d'un corphe est développé en moins d'un an à partir de cellules souches placées en embryogenèse accélérée dans des cylindres de liquide amniotique, maintenus à 37 degrés. Arrivé au stade natal, le corphe voit sa croissance dopée biologiquement jusqu'à l'âge de 16 à 20 ans. Pendant cette année de croissance en matrice, le corphe est constamment stimulé cognitivement par des voix, des bruits, de la musique, des images, et soumis à des bains d'informations variés et doux. Il est aussi régulièrement touché et massé, caressé et attendri, afin de le rendre sensuellement accessible aux futurs clients. Une fois maturé, il est sorti de la matrice, donc de l'usine biologique, et placé durant une à deux années complètes dans un centre de formation où il subit une éducation hyperstimulée, dont la dimension principale reste la sociabilité. La vie relationnelle y est très intensément développée. Les conditions psychologiques, suggestion, tendresse, soumission, sans violence, obéissance aux clients, respect des règles, bienveillance, sont normalisées pour obtenir des individus sans agressivité, sans cynisme, et portés vers la confiance en l'autre. Les corphes sont donc des êtres faciles à vivre, ce qui est très important. Les rats, donc cas déviants, psychotiques, anormaux, trop intelligents ou anxieux, sont éliminés au cours du processus d'éducation. Le taux de perte avoisine généralement les 8%, mais peut monter exceptionnellement à 15% pour des génomes destinés aux travaux physiques soutenus. Au bout de cette année d'éducation intense, le corphe est mis sur le marché. Il faut donc environ 2 ans seulement pour faire un corphe. Les corphes de même souche se singularisent par le tatouage. Ils réagissent comme réagissent des jumeaux, avec une très forte empathie transversale. Quand un corphe d'une série commence à dysfonctionner, qu'il devient trop autonome ou revendicatif ou trop réflexif sur sa condition, il est courant que toute la série soit sacrifiée dans la discrétion. Elle est retirée du marché avec un remplacement corps pour corps, parfois upgradé, pour contrebalancer l'impact négatif sur le client.
Voilà ces corphes dont on pourra évidemment débattre tout à l'heure. Autrement dit, quelle est leur signification, même si je pense que la plupart d'entre vous l'avez compris. C'était aussi un peu l'aboutissement donc, de Corps Concept, puisque l'ouvrage, je l'ai découvert, je crois, quelques jours avant l'ouverture de l'exposition, qui était, donc, comme je vous l'avais dit, une exposition qui avait pour vocation de traiter ce qu'on appelle l'homme augmenté. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence, cet extrait me paraissait assez intéressant, entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Vous savez, c'est assez simple, du moment où vous avez un dysfonctionnement, qu'il soit physique ou psychique, alors on suppose à juste titre que la médecine, que le développement technologique nous permet d'être réparé. On est réparé du moment où un dysfonctionnement peut être remis à niveau. L'homme augmenté, on suppose habituellement qu'il est... Il n'a pas de dysfonctionnement apparent, c'est en tout cas comme ça que c'est souvent présenté, il n'a pas de dysfonctionnement apparent, et donc on peut augmenter ses capacités. Une des capacités que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la concentration. Un être humain normal ne peut pas se concentrer pendant 10 jours d'affilée. Particulièrement en période d'examen, vous en avez sûrement fait tous l'expérience. Par contre, il existe des substituts chimiques, tels que la ritaline, qui permettent de rester concentré pendant plusieurs jours. Habituellement, la ritaline est donnée aux enfants qui ont le trouble de l'attention, et donc on appelle en général hyperactifs les enfants qui n'arrivent pas à rester tranquilles, ce qui est déjà assez bizarre, un enfant qui reste tranquille, c'est quand même étonnant. Mais un enfant en bas âge qui reste pas tranquille à l'école, on peut déceler un trouble de l'attention, et on peut donc rééquilibrer ce trouble, ce dysfonctionnement, avec un médicament qui s'appelle la ritaline. Sauf qu'évidemment, la ritaline n'est pas restée... cantonnée au domaine des enfants, puisqu'aujourd'hui elle est de plus en plus utilisée par les étudiants américains, mais dès qu'on dit une phrase comme ça, on doit se dire qu'il y a aussi des étudiants français, suisses, japonais qui utilisent ce genre de choses-là pour se concentrer en période d'examen. Ça marche très bien, je ne sais pas si je vous conseille vraiment d'essayer, mais ça marche très bien. Le problème de la Ritaline, c'est qu'évidemment, ça génère une addiction. Ce qui est assez logique, ce qui fait que vous pouvez après avoir des petits problèmes si vous ne la prenez plus, ou soudainement, votre attention de base, vous n'arrivez même plus à la voir. Alors, ce qui est assez bizarre dans l'homme augmenté, c'est qu'elle s'appuie, et c'est des transhumanistes s'appuient là-dessus, ils s'appuient sur une définition de la santé de l'OMS. Vous savez qu'avant 1946, la définition de la santé, c'était « être en bonne santé, celui qui n'est pas malade ». C'était relativement pratique. Hein, si vous ne sentiez pas de traumatisme particulier, de dysfonctionnement, si vous arriviez à peu près à vivre votre vie normalement, vous étiez en bonne santé. Et puis dès 1946, apparaît une nouvelle définition de la santé qui fonde la médecine moderne, et en particulier tout ce qui va toucher aux médicaments et les industries pharmaceutiques. Bon, en Suisse, on est bien placé pour parler de ça. Qui est l'idée que la santé, c'est être en bonne santé, quelqu'un qui est en complet bien-être physique, psychique et social. Autrement dit, bon, c'est déjà compliqué, hein, alors on peut toujours penser un peu narcissiquement qu'on est en complet bien-être physique, psychique et social, mais en règle générale, ça ne tient pas très longtemps. Autrement dit, on est tous des hommes à réparer. Hein, si j'accepte la définition de l'OMS, je suis tous les êtres humains, vous comme moi, indépendamment des dysfonctionnements objectifs que vous pouvez avoir, nous sommes des êtres à réparer. Et c'est exactement sur cet argumentaire que se fonde le transhumanisme en disant mais non, l'être humain, naturellement, c'est un brouillon. Hein, il n'arrive pas à se concentrer longtemps, bon, il meurt, en l'occurrence c'est son corps, paraît-il, qui meurt, donc on pourrait peut-être imaginer faire en sorte de repousser la mort, repousser la souffrance, on pourrait commencer à imaginer des greffes. Alors ce qui était assez marrant avec ce petit schéma, c'est de voir justement sur quel type de technologie travaille aujourd'hui passablement de laboratoire, parce que le transhumanisme n'est pas un mouvement localisé, c'est un ensemble de mouvements qui se reconnaissent dans une sorte de mouvement idéologique maximal qu'on appelle le transhumanisme, qui suppose qu'on peut améliorer l'existence humaine grâce aux sciences et aux technologies. Alors on vous parle de cellules, on vous parle des yeux bioniques, des os, système sanguin, le cerveau, etc. Il y a les premières thérapies géniques qui sont sorties aux États-Unis. Bon, elles coûtent encore 450 000 dollars. Mais bon, c'est une question de... C'est de Novartis. Bon, après, c'est toujours un peu compliqué de venir parler de ça. Les connexions à machines. Là, on voit bien comment l'aspect prédictif de la science vulgarisée et moderne fonctionne. C'est ça que je voulais absolument inspecter dans Core Concept. C'est-à-dire, si je veux tout changer... D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient pris cette posture pour cet homme modifié, qui semble plutôt un peu mélancolique, voire déprimé, plus que ravi de toutes les modifications qui lui sont faites. Parce que je me suis dit, c'est quand même sympa de pouvoir imaginer augmenter l'homme. Mais pourquoi est-ce qu'on veut autant s'augmenter, se réparer, atteindre le nirvana de la conscience, du physique? Et pourquoi on accepte, très bizarrement, mais vraiment très bizarrement, que quand un type nous dit... Nous n'utilisons que 10% de nos capacités cérébrales. Vous avez entendu ça. La question de base de tous les lycéens, faut que j'adapte aussi le vocabulaire scolaire, c'est comment et qui connaît le 100%. Ouais, parce que quand on peut dire qu'il y a 10% du cerveau qui est exploité, c'est qu'il y a bien un type qui connaît le 100%. Vous voyez, si vous dites, j'ai mangé 10% du gâteau, on voit le 100% du gâteau. Mais si vous utilisez 10% de votre cerveau, c'est qui les maîtrise le 100%. Alors on l'accepte comme ça, parce que c'est un type intelligent qui a dit ça. Et l'image, évidemment, que ça renvoie de nous-mêmes, c'est quand même pas de bol d'être déjà qu'on n'a qu'une vie, elle ne dure pas longtemps, et en plus que 10% du cerveau, on pourrait peut-être faire quelque chose. Hein? Alors c'était un peu cette idée de réfléchir, de réfléchir à la question du corps, à la question de l'image de l'humain. Sommes-nous des brouillons à réparer? Utilise-t-on vraiment 10% de ses capacités cérébrales? Et je trouvais, c'était pour ça que la maison d'ailleurs était un lieu qui le permettait, je trouvais que l'art et la science-fiction, donc la littérature, permettaient de poser des bonnes questions par rapport à ça. Et la transition tombe bien, puisque Alain va nous dire quelque chose.
Attends, on n'est pas augmenté encore en déroule
le micro.
On n'est pas en haut.
Donc on attend.
Je fais un pas de danse.
Je fais un peu un pas de danse. Alors je vais peut-être faire un petit pas de danse, je vais passer au suivant. Ça peut paraître surprenant de faire une exposition en utilisant l'art et la science-fiction pour questionner quelque chose d'aussi sérieux et peut-être aussi d'aussi problématique que le transhumanisme. Mais une des Une des choses qui me paraissait importante et qui fait que la littérature aujourd'hui, en tout cas, à mon avis, la science-fiction, mais comme d'autres types de littérature, a un rôle politique ultra important à jouer, ça vient d'une réflexion d'un philosophe qui s'appelle Yves Citon, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe, qui dit, en substance, hein, je vous la fais brève, nous vivons tous dans une scénarisation. Voilà. Alors, on vit dans un scénario. Par exemple, Alain, il parle de technocapitalisme. Alors, il pourrait vous expliquer pendant 3h30, c'est pour ça qu'il ne va pas le faire, pourquoi est-ce que le technocapitalisme peut être en fait un scénario dans lequel on vit, qui va exploiter chacun de nos moments et qui va rendre légitime aussi chacune de nos actions. Allez, voilà, Yves Citon dit on vit tous dans un scénario, ce qu'il appelle une scénarisation qui donne du sens à nos actes, mais qui nous est imposée. Et il dit le rôle de la littérature, de tout temps, en tout cas depuis la modernité, c'est de proposer une quantité astronomique de contre-scénarisation. Autrement dit, plutôt que d'avoir un scénario de base qu'on suit aveuglément, qui est par essence le totalitarisme, on a plein de subversions, de contre-scénarisations qui émergent, et c'est un des rôles de l'art habituellement de faire ça. Hein, c'est de proposer une autre manière de réfléchir à notre vie, une autre manière de mettre en forme notre vie au cours du temps. Ce qui est intéressant par rapport à ce technocapitalisme, qui apparaît évidemment dans le courant du 19e siècle avec la seconde révolution industrielle, qui va modifier non pas seulement la structure matérielle de la société, mais nous-mêmes. Vous voyez, ça change quand même pas mal de savoir que vous êtes créé à peu près par le doigt de Dieu, en termes de responsabilité, que de savoir que vous êtes vaguement le fruit hasardeux d'un processus tout aussi hasardeux. Hein, en termes de responsabilité, c'est compliqué. Ça change quand même passablement, indépendamment de savoir si c'est vrai ou pas, puisque normalement, dans la salle, personne n'est capable de me démontrer la théorie de l'évolution. Peut-être que c'est pas le cas, mais... Donc on l'a accepté en termes de scénarisation scientifique, principe d'autorité, ça fonctionne. Et comme par hasard apparaît dans ce 19e siècle, une sorte de littérature bizarre qu'on a appelée la science-fiction, qui vient proposer des contre-scénarisations. Tiens, un savant peut être fou. Tiens, des robots sont peut-être d'abord des humains. Tiens, le technocapitalisme passe son temps à instrumentaliser, à rendre fonctionnels les humains, etc. Et c'est pour ça que la Maison d'ailleurs travaille sur la science-fiction, qui est de dire... Et si on racontait une histoire, si on narrativisait la science, hein, si on offrait un scénario, plutôt que de penser que je suis pris dans une sorte de fatalité qui est le technocapitalisme, qui fait que quoi que je fasse, j'ai un smartphone sur moi et je paye mes redevances chez tel et tel grand groupe et autres, ben il existe peut-être d'autres formes, d'autres modèles, d'autres scénarios. Mais pour que les scénarios fonctionnent, il faut qu'on les fasse sien. Et l'avantage et la propriété d'une fiction, c'est quand vous lisez un roman, ben c'est vous le héros. Hein, puisque vous dites « je », puisque vous éprouvez des émotions, parce que bizarrement, quand on vous dit que vous utilisez 10% de votre cerveau, ça ne produit pas tellement d'effet. Par contre, quand vous lisez l'heure du contrevent, des petits trucs, et ben vous êtes avec ces types-là, quoi. Et vous éprouvez des émotions avec ces types-là, vous avez un autre scénario. Et c'est pour ça que la Maison d'ailleurs travaille depuis 41 ans maintenant sur cette question de faire dialoguer la science-fiction comme culture populaire, l'art ou les travaux artistiques contemporains, à l'aune de cette immense scénarisation dans laquelle on est pris, qui est le technocapitalisme, pour reprendre les mots d'Amazio, à qui je passe par ailleurs la parole.
Ce monde générique et génétique du corps cloné, ce monde censément sexuel et sans attirance, strié de corps violets mais comme intact, ce monde hautement plastique et chromatique mais sec de sensualité technomagique, et pourtant sans le moindre charme, ce monde est-il à bénir ou à condamner? Nous n'en saurons jamais rien. Il est simplement stupéfiant, sans que cette stupéfaction implique un jugement de valeur. Là est toute la beauté du corps. Toute cette perfection plastique est la forme désaffectée du corps, comme le porno et l'avion craché de la séduction, comme la valeur d'usage et la trace désargentée des objets, comme le réel est devenu la forme désenchantée du monde. Ça plombe.
Voilà, donc...
C'était gay jusqu'ici.
C'était gay jusqu'ici, et d'un coup, c'est fini. Dans l'exposition, je savais que j'aurais les œuvres de Bob Dehoum, et j'avais envie de faire résonner ces œuvres avec d'autres types d'œuvres ici. je trouvais intéressant de réfléchir à la question du cyberpunk. Vous savez qu'il existe un mouvement de la science-fiction qui s'appelle le cyberpunk, qui a été fondé, c'est un peu compliqué de parler de fondation d'un mouvement littéraire, mais disons, dont une des premières occurrences, c'est un roman qui s'appelle Neuromancien, écrit par un Américain qui s'appelle William Gibson. Et Neuromancien, qui est publié en 1984, a donné lieu, en tout cas on connaît un petit peu ce roman, parce que le film Matrix est adapté 15 ans plus tard de ce roman. Hein, le film Matrix, c'est 1999. Le concept de Matrix, le concept de cyberspace, etc., proviennent de Neuromancien. Et ce qui m'intéressait par rapport aux travaux de Bob Deum, je vous ai sorti une citation du Neuromancien, c'est de voir un peu comment il travaillait justement cette question du corps et du transhumanisme. Autrement dit, comment dès 1984, il y a déjà maintenant quand même 30 ans, on avait déjà en littérature une sorte de contre-scénarisation, de scénario qui nous obligeait à inspecter certains fondements du monde dans lequel on vivait. Alors je vous cite c'est le début du texte. Case, qui est donc le personnage principal, Case avait 24 ans. À 22, il était un cow-boy, un braqueur, l'un des tout bons de zone. Il avait opéré en trip d'adrénaline pratiquement permanent, un sous-produit de la jeunesse et de la compétence, branché sur une platine de cyberspace maison qui projetait sa conscience désincarnée au sein de l'hallucination consensuelle qu'était la matrice. Voleur, il avait travaillé pour d'autres voleurs plus riches. Il avait commis l'erreur classique, celle qu'il s'était juré de ne jamais faire. Il avait piqué à ses employeurs, il avait étouffé une bricole et cherché à la sortir par un fourgue à Amsterdam. Ils lui endommagèrent le système nerveux avec une mycotoxine russe héritée de la guerre. Pour Case, qui n'avait vécu que pour l'exultation désincarnée du cyberspace, ce fut la chute. Dans les bars qu'il fréquentait du temps de sa gloire, l'attitude élitiste exigeait un certain mépris pour la chair. Le corps, c'était de la viande. Case était tombé dans la prison de sa propre chair. Le texte n'est pas très facile à lire, mais on voit apparaître quelque chose d'assez surprenant. On voit apparaître quelque chose d'assez surprenant, c'est d'un côté la pesanteur de la chair qui est comparée à la fin de la viande. Et si vous lisez le roman, chaque fois qu'ils sont dans le monde réel, les personnages, alors ça pue, quoi. Hein, c'est le réel est puant, suintant, transpirant. Tout ça, c'est une sorte de marasme comme ça de chair. Il n'y a plus de sensualité, tous les corps sont hybridés, sont des cyborgs partout. Et puis il y a un endroit magique comme ça, qui est la matrice. Vous voyez la définition qui est donnée par la matrice, c'est pas d'abord un logiciel informatique, c'est d'abord une hallucination consensuelle. Hein, c'est d'abord quelque chose dans lequel on peut se désincarner. Et Case, vous l'avez bien compris, à cause de cette mycotoxine, il peut plus se brancher à la matrice, et donc il devient complètement fou, hein, une sorte de décompensation, lui qui était devenu addict. On sait que Gibson écrit ce roman en voyant des enfants jouer aux premières consoles Atari 2600, donc vous voyez un peu Atari 2600, c'est pas non plus Assassin's Creed, donc on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans du réalisme absolu, c'était 3 pixels de couleur, mais par contre, ce qu'il se rend compte, c'est, ou il perçoit, disons, l'apparition du jeu vidéo dans les années 80, c'est-à-dire avec la démocratisation des consoles de salon, juste après la bulle spéculative sur le jeu vidéo, il se rend compte que, tiens, de plus en plus de foyers vont accueillir des espaces virtuels, des cyberspace. Il n'a pas inventé ça, il le voit autour de lui. Hein, les pubs d'Atari mettaient en place des familles qui jouaient tous ensemble. En général, le papa avec la main sur l'épaule de son garçon et la maman qui souriait à sa fille. Et il se dit, tiens, là-dedans, dans cette espèce de scénarisation qui vise à mettre des jeux vidéo chez tout le monde, alors que Gibson n'a rien contre le jeu vidéo en soi, Je vois un phénomène étonnant qui fait que les enfants sont fascinés par le cyberspace. Hein. Où sont-ils? Quand vous jouez à un jeu vidéo, où êtes-vous? Et il se dit, ben voilà, il y a une fascination pour ce monde virtuel, mais cette fascination, je vais la cadrer, je vais la réfléchir au niveau, en fait, du corps. Hein, il parle de la chute, et c'est pas évidemment, c'est pas étonnant qu'il prenne un mot biblique. Il dit, tiens, ce qui est en train d'apparaître avec le néolibéralisme des années 80, c'est qu'en fait, la scénarisation dans laquelle on vit va nous faire échapper à notre chair. Comme si, en fait, tout ce que l'on crée, donc quand le transhumaniste nous parle, par exemple, d'hybrider notre cerveau avec des machines informatiques, ce qu'on appelle l'uploading, hein, alors ça a comme avantage d'être immortel, paraît-il, mais ça a comme désavantage le fait que, soudainement, votre chair n'est qu'un véhicule parmi tant d'autres, et que ce véhicule pourrait être remplacé par n'importe quel autre véhicule, en particulier un véhicule qui serait moins sensible. Autant. hein, puisque s'ils ne se dégradent pas moins rapidement, alors on vit plus longtemps. La vieillesse étant considérée exclusivement comme étant une dégradation du corps, et pas de l'esprit. Voilà. Donc vous allez dire, ouais, bon, tout ça c'est de la science-fiction, on s'en fout, mais en même temps, l'Union européenne a donné il y a quelques années 1 milliard d'euros à un projet qui s'appelle le Blue Brain Project. Vous avez peut-être déjà entendu ce projet, qui avait visé à cartographier le cerveau. C'est une école polytechnique suisse qui a payé, enfin qui a reçu ce milliard. Bon, je vous rassure, il y a aussi 1 milliard qui doit être payé par les citoyens en impôts. Et le projet avéré du Blue Brain, qui était donc de modéliser le cerveau humain, c'était, première chose, d'être capable de résoudre les 600 pathologies mentales, vaste tâche. Et puis, deuxième objectif, d'être capable de créer des connexions homme-machine pour voir dans quelle mesure le pattern neurologique pouvait être compatible avec des logiciels informatiques. Autrement dit, un petit peu ça, sauf que ici, et je vous incite vivement à lire Neuromancien, quand on lit Neuromancien, on n'est pas très content. On se dit pas tout ça, c'est sympa. On se dit, c'est quand même bizarre que le truc que je vis, que j'éprouve tous les jours, en positif et en négatif, qui me permet de pouvoir aimer et détester, qui me permet de pouvoir manger, me délecter et autres, ce truc-là, en fait, dans le roman, il passe son temps à être mis de côté, à être rabaissé, à être de la viande, à être une prison. Et on voit cette espèce de case qui veut absolument rentrer dans la matrice. Il y arrive à la fin du roman. Et évidemment, du moment où il est complètement dans la matrice, alors on ne sait plus qui c'est. Il y a des cases en qui commencent à se multiplier en permanence. Et donc là, le personnage disparaît. Il devient une sorte d'entité complètement indistincte des autres, qu'on appelle une IA, puisque l'IA, l'intelligence artificielle, dans la science-fiction, c'est évidemment un être humain sans corps. Hein, c'est pas un logiciel informatique autonome parce que hein, c'est un être humain à qui on a privé le corps. Vous n'avez plus de corps, vous êtes une IA. C'est pour ça que dans ce magnifique film que vous avez sûrement vu qui s'appelle Her de Spike Lee, hein, et ben, qui c'est qui nous parle ? Et ben, c'est une voix humaine de Scarlett Johansson, et tout le monde sait que c'est Scarlett Johansson, accessoirement. Sauf que tout le monde est méga frustré en disant à quel moment va-t-on la voir ? Et là, on ne la voit pas, mais personne ne se dit que c'est pas un robot. On voit bien comment ce film-là, de manière assez intelligente à mon sens, mais ce n'est pas le seul film que j'aurais pu citer, montre bien que l'IA, c'est d'abord un humain sans corps. C'est fondamental pour le discours marketing du film que tous les gens sachent, avant le début du film, que c'est Scarlett Johansson qui parle. Ils auraient pu moduler sa voix, la transformer, c'est assez facile à faire aujourd'hui. Ben non, ils ont gardé cette voix assez suave de Scarlett Johansson, parce qu'évidemment, le spectateur, il infère en permanence, il passe son temps à inférer le fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Scarlett Johansson, qu'on aimerait bien voir, ou pas, mais en tout cas, que c'est elle et que c'est pas un pur logiciel. Voilà cette prison de la chair dont on s'est libéré pour devenir une pure entité indistincte, mais l'IA, c'est d'abord l'humain. C'est juste l'humain qui passe son temps à vouloir se débarrasser de son corps. Alain.
Moi, je vais vous le faire en cloner, celui-là. Nous sommes des lois de Nîmes, même morph, même couvée, promotion 2048, péremption septembre 2052. C'est marqué à l'intérieur de nos cuisses. Il nous restait 3 jours avant le recyclage quand nous sommes partis. Normalement, nos encrypteurs neuronaux disent que c'est impossible de casser le code psychotique du suicide. Nous étions destinés à nous supprimer nous-mêmes par overdose médicamenteuse, sobre et pratique, très déculpabilisant aussi pour le client. Mais Naomi Held nous a hackés, juste avec ses mots, avec son livre. Hacker le cerveau, hacker l'effrayage programmé des axones, naturellement. La fuite, elle l'a mise en nous. Le 1er septembre 2052, jour programmé de notre mort, nous sommes retrouvés au point zéro sous la tour Eiffel, pas encore reconstruite. On croyait toutes les trois rencontrer la Naomi en chair. C'était juste nous, trois fois libres. Loa a décidé de s'appeler Moa. Moi, j'ai décidé de m'appeler Toa. Et Loa, ongle noir, elle nous a demandé ce qui lui irait bien. Ça nous a surpris, c'était différent déjà de demander, pas de choisir elle-même. On l'appelait Soa. Toa, Moa et Soa. Miner, miner, extraire, creuser, chercher, rechercher, oui, wanted, même dans toutes les capitales d'Europe, comme toutes les fuyardes, les clonardes, les marronnes, celles que le service qualité de la mondiale appelle les fails. Il nous a fallu tout désapprendre. La sédentarité, la servilité, la peur de déplaire. Surtout ça, déplaire. Faire de déplaire un désir, un plaisir. Aujourd'hui encore, il ne se passe pas une heure sans que j'ai envie de me rendre. Sans que je me sente inutile et vide, tordu contre moi. Avec mes sœurs, on se sépare chaque matin, car nous voir ensemble trahit l'évidence de nos origines. Et on se retrouve chaque soir, parfois chez d'autres clones, parfois dans les parcs, dans des hôtels. On se prostitue pour gagner des nuits à l'abri. Nous vivons dans les interstices de la ville, les magasins, le métro, les trains, les aéroports, les checkpoints. Tout ça nous est interdit. L'ID sur la nuque, nous l'avons surtatoué. Pourtant les scans le lisent encore, en sous-couche. Nous nous sommes cassés les mâchoires pour les reconfigurer. Nous avons réhérissé nos yeux en marron triste, élargi les pommettes et les ailes du nez pour fausser la reconnaissance biométrique automatisée. Ça passe, désormais. Nous sommes un peu asymétriques, un peu laides. Belle autrement, dit Soa. Belle comme des apax que la nature aurait faites. Notre quête depuis 6 mois devient plus intérieure, plus secrète, plus complexe aussi. Nous cherchons à devenir différentes, à nous écarter chaque jour un peu plus de notre codage comportemental, de nos programmations émotionnelles. Si ma sœur aime le thé, je m'efforce d'apprécier le café, d'apprendre à l'apprécier, à le préférer au thé. Si le bleu m'attire, je m'habille fauve, j'essaye de marcher plus vite que mes sœurs, de danser plus saccadé aussi, d'avoir des pensées dures parfois, de casser l'empathie systématique qui nous a été enseignée. Nous jouons à nous surprendre, à nous désobéir. Nous avons un système de points pour ça. Je suis en tête. J'en souffre. J'ai l'impression de ne plus me retrouver, de ne plus être moi-même, de tricher avec ce que je sens au plus profond. Parfois, je me dis que la recherche de l'originalité à tout prix nous tue lentement. Elle tue cette partie bonne en nous que notre génétique nous a léguée, cette gentillesse, cette écoute, cette générosité que nous avions pour le client, pour tous les humains. Quelque chose de sec pousse en moi, de froid. Ça m'aide à survivre, à me cacher, à me battre. Ça nous aide toutes les trois, je crois. J'aime mes sœurs à un point dingue. Passer la journée sans elles me creuse le ventre. Je serais prête à me sacrifier pour elles. J'en ai envie. J'en ai tellement envie, souvent que ça me brûle. Pourquoi être 3 fois la même? Une seule suffirait, non?
Voilà, donc on avait des... On se parlait un petit peu du corps brouillon, du corps qui devrait disparaître. Et pour mettre en parallèle tout ça dans l'exposition Corps Concept, j'ai invité 3 artistes. Alors je dis ça, il y a 2 artistes individuels et puis un collectif d'artistes en devenir. D'abord, j'ai travaillé avec un artiste suisse qui s'appelle Mathieu Gersou, qui est un photographe. Qui fait de la photo qu'on appelle documentaire, autrement dit, sa photo nous empêche de décider du sens à lui donner. Plutôt, on travaille sur une sorte d'ambiguïté assez forte. Vous voyez ces 2 images, bon, qui ne forment pas un diptyque, mais ces 2 images dans une série de 10, qui présentent une série en cours de Mathieu qui s'appelle H+. Et H+, c'est l'acronyme qui est donné au transhumanisme. Hein, le transhumanisme... se montre ou s'exhibe sous forme de H+, évidemment humanité augmentée. Et Mathieu fait donc une série qui s'appelle H+, dans laquelle il a pris plein de dimensions du transhumanisme. Une de ces dimensions, vous le voyez tout à votre gauche, c'est la dimension de la prothèse. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, ce qui est assez particulier, c'est qu'on ne sait pas si l'individu qui est dans cette espèce d'exosquelette est un être qui aurait des problèmes de motricité, auquel cas la prothèse l'aiderait à se mouvoir, ou si au contraire on est face à un homme augmenté, c'est-à-dire un être humain qui serait comme vous et moi, mais dont la prothèse augmenterait les capacités. Vous savez qu'aujourd'hui, passablement d'armée, l'armée américaine en particulier, met en place ce genre d'exosquelette qui permettent aux militaires, évidemment, de pouvoir courir beaucoup plus longtemps. C'est comme la Ritaline et la concentration, vous vous concentrez plus longtemps avec la Ritaline, qui est une prothèse chimique. Avec l'exosquelette, qui est une prothèse technique, en fait, vous pouvez courir beaucoup plus longtemps et beaucoup plus résistant, en tout cas, à moindre effort. Et cette espèce de frontière, hein, est bien mise en scène, elle est bien représentée, à mon avis, dans cette image-là, d'un être qui est toujours à la frontière entre le réparé et l'augmenté, voire même l'incapacité à pouvoir distinguer ce qu'est aujourd'hui un être augmenté d'un être réparé. L'image, par contre, à votre droite, qui est une autre dimension du transhumanisme, qu'on appelle bah, justement qui est la fascination pour le virtuel, on voit aussi ce jeune enfant qui est devant une tablette, comme ça, une sorte de fascination complète pour le monde virtuel. Et il y avait cette idée, c'est Mathieu qui avait pas mal travaillé sur les romans de science-fiction du cyberpunk, donc des années 80, de pouvoir montrer cette espèce de basculement imminent dans le monde virtuel. Hein, on voit à la fois une sorte de fascination, et puis on a l'impression que tout le app, hein, vous savez comment fonctionne l'œil par rapport à des éclats lumineux, puisqu'on voit d'abord le visage du jeune garçon qui regarde la tablette, donc le contenu du cyberspace, de l'espace virtuel, et donc le mouvement l'amène à devoir rentrer, hein, c'est comme ça qu'on le perçoit, dans cette tablette-là, alors qu'en fait, techniquement, il reste malgré tout à l'extérieur. Et qui est un petit peu ce qui a été scénarisé par nos romanciers que je vous ai lu tout à l'heure, hein, cette espèce de volonté de plonger dans le monde virtuel pour y découvrir quoi ? Ben, soit l'origine de la fascination, soit évidemment la disparition du corps, hein, pour s'affranchir de cette limite qu'est le corps, qui nous empêche de passer à de bonnes choses, dont par exemple de vivre éternellement. J'ai aussi demandé à une école d'art qui s'appelle l'ECAL, enfin, l'école cantonale d'art de Lausanne, de pouvoir travailler avec les étudiants, parce que je trouvais que quand on avait 20 ans aujourd'hui, eh ben, c'est quand même bien de pouvoir se positionner et de réfléchir artistiquement au transhumanisme, parce que dans 20 ans, ça sera pire. Donc je me suis dit, ben, ces jeunes gens, on va leur demander comment ils voient le transhumanisme. Donc c'était assez gonflé, parce qu'on était face à des premières de bachelor, donc des jeunes gens qui avaient en gros une vingtaine d'années, de pouvoir proposer spontanément leur vision, ou un projet en lien avec le transhumanisme, ou avec une des dimensions du transhumanisme, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le transhumanisme, ce n'est pas un mouvement identifiable, c'est une collection de mouvements des plus extrêmes, s'hybrider à un réseau virtuel, au plus commun, développer des prothèses chimiques qui permettent d'équilibrer la chimie du cerveau. Hein, par exemple, ça marche bien, vous savez que le médicament le plus vendu pour adultes aux États-Unis, avant l'aspirine, enfin avant, ça se vend plus que l'aspirine, c'est le Prozac, Novartis de nouveau, et le Prozac, qui est donc la pilule du bonheur, hein, le Soma de Huxley, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir un peu rééquilibrer votre chimie cérébrale et de bloquer certaines endorphines, ce qui fait qu'en général, ça se passe un peu mieux après qu'avant. En tout cas, ça vous donne le sentiment d'aller mieux. Hein. C'est souvent un traitement qui était utilisé au départ pour les dépressions, mais qui, côté on sait qu'elle est prescrite énormément aux États-Unis et pas que là-bas, par ailleurs, on peut se demander si soit toute la population américaine est devenue complètement tarée, bon, peut-être pas en France, il faut demander ça, mais disons, ou alors si, justement, l'homme est toujours à réparer, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est jamais au top, puisque finalement, il n'arrive pas trop à atteindre ce complet bien-être physique, psychique et social. Alors, ils ont travaillé sur pas mal de choses différentes. Ici, il y a deux projets. Il y avait un projet sur la sur votre gauche. On voit que le visage de cette jeune fille est composé de deux visages, ce qui crée un peu cette espèce de... tout bizarre. Et l'étudiant avait travaillé sur un projet, au départ, qui était basé sur la Corée, mais qui pourrait très bien être étendu plus loin, qui était l'idée que quand vous voulez faire votre carte d'identité ou votre passeport, il n'y a pas de photomaton, on appelle ça, mais oui, il n'y a pas de ces trucs où on peut se prendre le portrait. Donc on donnait chez un photographe professionnel qui va par ailleurs gommer toutes vos soi-disant problèmes, défauts, marques de fabrique, etc. Avec le questionnement de l'étudiant, c'était, bon, bah, qui c'est alors cette personne ? Ah, si j'ai enlevé tout ce qui me caractérise, mais qui serait considéré par rapport à une sorte de modèle canonique comme un défaut, alors pourquoi cette photo me représente ? Et le but de l'étudiant était de travailler à la fois sur cette espèce de perfectibilité transhumaniste, devenir plus parfait, c'est pour ça que les transhumanistes passent leur temps à citer Rousseau, qui a inventé le concept de perfectibilité humaine, sauf que comme vous le savez, chez Rousseau, la perfectibilité humaine se crée par le contrat social, pas par l'investissement technologique. Et en même temps, permettait de réfléchir à un des problèmes en Occident que vous connaissez tous, c'est la souffrance que l'être humain ressent ou peut ressentir quand il est confronté à des modèles de masculinité ou de féminité parfaits, mais retouchés. C'est toujours ces espèces de scandales, des gens qui souffrent terriblement, à juste titre en même temps, de voir des hommes ou des femmes parfaitement en tout cas suivant une sorte de norme plastique soi-disant parfaite, et qui, tout en sachant que ces images sont retouchées sur Photoshop, ben, le problème c'est que l'image elle s'imprègne et qu'on veut quand même atteindre cette perfection physique. Alors on peut passer des heures dans les salles de fitness et on peut commencer à prendre passablement de prothèses chimiques qui nous permettent d'atteindre cet idéal, en sachant évidemment que c'est un idéal inatteignable. Une étudiante qui a aussi travaillé sur cette espèce de perfection, alors qui était plutôt dans une réflexion sur la femme, hein, cette perfection féminine, parce qu'elle avait analysé les discours transhumanistes qui mettaient en évidence une sorte d'hypersexualisation de la femme. Alors elle imagine un monde où il n'y a plus que du virtuel, c'est pour ça que ça a un côté un peu image de synthèse, il n'y a plus que du virtuel et toutes les femmes qui restent ne sont que des images de quelques femmes initiales. Hein. Et puis elle vous parle, donc c'est un film en fait, elle vous parle un petit peu de leurs fantasmes qui sont évidemment les vôtres. Et l'étudiante avait comme intention de réfléchir à cette question du fait que le transhumanisme nous renvoyait notre propre fantasmatique et que c'est peut-être pour ça qu'on y adhérait, plus que pour des raisons de croyance dans la technologie. Je terminerai par Bertrand, par Webdeum. C'est un peu difficile parce qu'il y a une expo là. Ce qui m'avait passablement plu, c'est que quand on inspecte le transhumanisme, alors on a le corps comme un brouillon, on a le corps qui doit disparaître, on a le corps comme utopie. Hein, c'est en fait cette idée de pouvoir rendre parfait, améliorable à souhait, le corps et les compétences humaines. Et peut-être qu'une des manières de rendre le corps parfait, c'est de le faire disparaître, par ailleurs. Hein. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est peut-être un peu moins louable, mais qui est le corps, en tout cas c'est ce qui me parlait chez Bertrand, qui est le corps marchandise, qui est le corps sur lequel on capitalise. Et on parlait souvent, moi j'ai souvent utilisé cette image qui est peut-être un peu absurde, mais c'est l'effet Ikea. Alors, l'effet Ikea, c'est comme ça, c'est j'habite dans un 50 mètres carrés, ou un 30, hein, et je veux que cet appartement vide, ça soit le mien. Alors je fais ce que font beaucoup de gens, parce que Ikea est le seul magasin sur Terre qui est toujours plein, c'est que je vais acheter des meubles. Autrement dit, pour créer la singularité de mon lieu de vie, je vais le doter d'éléments qui sont ultra standardisés, produits à des millions et des millions d'exemplaires, et j'ai vraiment le sentiment que ces trucs-là, ça sera chez moi après. Ouais. Donc, ça va sûrement déjà arriver. Ah, toi aussi, t'as ce meuble TV. Ah, voilà. Ça, c'est l'effet Ikea. Mais c'est pas le même que le vôtre, en fait. C'est juste... Alors, quand on voit la série... ou les séries de Webdeum, évidemment, ce qu'on voit, c'était une sorte de variation sur un même thème. Alors c'était intéressant parce que quand on était en Suisse, au vernissage de l'expo, il y avait un désaccord entre Bertrand et Alain, c'est que cette espèce de standardisation des éléments, cette espèce de combinatoire d'éléments standardisés, Bertrand le voyait plutôt de manière un peu « c'est la fin ouais. ». Je ne pense pas trahir trop, c'est un peu caricatural, vous voyez ce que je veux dire. Et puis Alain voyait justement la possibilité, à partir de cette standardisation, de créer une sorte de contre-pouvoir, en tout cas d'une subversion. On pourrait dire, pour reprendre les mots que j'utilisais avant, une contre-scénarisation. Hein, c'est par le biais du technocapitalisme qu'on peut renverser, contrer, lutter le technocapitalisme, pas par une idéologie autre, qui suppose toujours un rapport dialectique problématique. Donc moi j'aimais bien ça, parce que je trouvais que cette série, quand on les voyait à la suite, on voit toujours les mêmes tatouages qui reviennent, mais la combinatoire est tout le temps différente, et je pense que c'est la même chose ici, d'après ce que j'ai vu sur les photos sur Facebook, à la fin de la série, alors à Yverdon, c'est effectivement la fin, il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus d'image, il n'y a plus qu'un film qui tourne et qui fait que tous les visages se mélangent les uns dans les autres. Je pense que c'est la même chose ici. Oui, c'est ça. Et ça devenait intéressant, parce qu'on voyait bien ce... Puis je pense que vous verrez, si vous n'avez pas déjà vu l'expo, il y a des paquets de lessives sur lesquels il y a la représentation de vous, etc. C'est que finalement, la disparition du corps, c'est peut-être aussi ça, ou la disparition de l'humain, c'est peut-être aussi ça, c'est de devenir une marchandise, une ressource échangeable sur le marché. Et je trouvais que la série de Bertrand poussait à l'extrême la question du cyborg, c'est-à-dire celui qui n'est pas d'abord un être hybride technologie humain, mais c'est celui qui se fait contaminer par le technocapitalisme, qui devient une technologie lorsqu'on robotise quelqu'un, ou qui devient un produit marchand, lorsqu'on accepte, par exemple, que les sportifs ou autres représentent des marques, hein, des brandings comme ça, soit payent des sommes complètement faramineuses pour ça, et deviennent plus qu'une image, image que par ailleurs on idolâtre, ce qui m'a toujours semblé particulièrement spécifique. Texte.
Il vous frappait souvent? Pas souvent, non. Seulement quand il me faisait l'amour. Ça vous faisait mal? Pas beaucoup. Nos neurones de la douleur sont bêta-bloqués, comme vous le savez. C'était surtout, comment dire, triste. Triste? Triste comment? Disons que ça me donnait l'impression que mon corps en lui-même ne suffisait pas. Que je n'étais pas ce qu'il voulait. Ou plutôt, qu'il aurait suffi dans l'absolu, oui, mais qu'il était trop beau, trop parfait pour mon client. Il le vivait comme une insulte secrète, je crois. Il n'arrivait pas à me désirer sans me dégrader. Qu'est-ce qu'il vous faisait exactement? Il vous portait des coups? Les coups, c'était très rare. Il n'aimait pas l'esthétique des hématomes, il n'aimait pas les bleus, le violet, ça le dégoûtait. Ce qu'il aimait, c'était les trous. Que j'ai des trous un peu partout. Beaucoup de trous. En plus de vos orifices naturels? Oui. Alors, il vous faisait des trous? Il avait une perceuse spéciale pour ça, une machine qui perforait la chair de part en part avec une mèche à très haute température. La blessure cautérise en même temps qu'elle est faite, c'est efficace. Il aimait beaucoup percer l'intérieur des cuisses, sur mes hanches, au niveau des seins aussi, juste le diamètre de son sexe. Après, il me pénétrait. Il bandait dur dès que le trou était fait. Il le touchait du doigt d'abord. Ensuite, il me violait par ses nouveaux trous. Il éjaculait vite. Pourquoi vous dites « violer » ? C'est lui qui disait ça. Tu veux être violé par tes petits trous. Ça vous faisait mal ? Non, pas vraiment. Je sentais presque rien. Ça piquait un peu. Vous vous êtes enfui à cause de ça, de ces pratiques ? Non. Pourquoi ? À cause de quoi alors? Au bout de 2 mois, j'avais une vingtaine de trous, des fentes aussi sur tout le corps, et je trouvais ça horrible, très laid. Je n'arrivais plus à me regarder dans la glace quand je me lavais. Je supportais pas que mon corps ne m'appartienne plus, que je maîtrise plus mon esthétique. Un corps, c'est d'abord un corps parfait, vous comprenez? Mon corps est mon identité, j'étais fabriqué pour ce corps. J'avais envie de me reboucher, j'avais envie d'être lisse à nouveau, pleine, homogène. D'être belle à nouveau. Pour le client, vous étiez plus belle comme ça, n'est-ce pas? J'avais l'impression qu'il me voyait à travers. Une nuit, je suis sorti de la maison et j'ai couru droit devant moi pendant 8 heures. Je ne sais pas comment j'ai pu. C'est comme si mon cerveau aussi avait été troué. Mais ce trou-là, il était différent. Il m'a ouvert le monde. Il m'a sauvé.